Aristote, Traité de l'âme, livre 2, chapitre 9. Sommaire. Théorie de l'odorat. Difficulté particulière que présente l'étude de ce sens. L'homme est inférieur à la plupart des animaux pour l'odorat, de même qu'il leur est supérieur à tous pour le toucher, et par suite pour l'intelligence. Rapport des odeurs et des saveurs. Répartition du sens de l'odorat parmi les divers animaux. Différence de l'appareil olfactif, tantôt à nu, tantôt à couvert. Paragraphe 1. Il est moins facile de traiter de l'odorat et de l'objet odoré que de tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici, car on ne sait pas positivement ce que c'est que l'odeur, aussi bien qu'on sait ce qu'est le son ou la couleur. C'est parce que ce sens chez nous n'est pas très parfait et qu'il est moins délicat que chez beaucoup d'autres animaux. L'homme n'a point un bon odorat. Il ne peut pas sentir une chose odorante sans plaisir ou peine, ce qui prouve bien que cet organe chez lui n'est pas très fin. Paragraphe 2. On peut supposer avec raison que ceux des animaux qui ont les yeux durs ne distinguent pas très bien les couleurs, et que les nuances des couleurs ne sont discernées par eux que selon qu'elles leur inspirent ou ne leur inspirent pas de la crainte. Telle est l'espèce humaine en ce qui concerne les odeurs. Il semble que les diverses qualités des saveurs soient, relativement au goût, ce que sont à peu près les qualités des odeurs pour l'odorat. Mais le goût, chez nous, est encore plus parfait, parce que c'est une sorte de toucher, et que l'homme a ce dernier sens excessivement délicat. Pour les autres, il est fort au-dessous de bien des animaux, mais pour le toucher, il est fort au-dessus de tous, ce qui fait aussi qu'il est le plus intelligent des animaux. La preuve, c'est que, même parmi les hommes, les uns sont naturellement bien doués pour ce sens et que les autres le sont mal, tandis qu'il n'y a rien de pareil pour les espèces inférieures. Et ainsi, les hommes qui ont la chair dure sont mal doués pour l'intelligence. Ceux qui ont la chair douce sont au contraire bien doués. Paragraphe 3. Et de même qu'il y a des saveurs agréables et des saveurs amères, de même aussi pour les odeurs. Mais si à certains égards l'odeur et la saveur ont des analogies, par exemple si une odeur est douce comme une saveur est douce, à d'autres égards, l'odeur et la saveur sont tout le contraire. Il y a bien encore odeur âpre, forte, aigre et faible. Mais, comme nous le disions, les odeurs n'étant pas aussi nettement distinctes que les saveurs, elles ont reçu leur nom de ces dernières à cause de la ressemblance même des choses. Ainsi, on a appelé douce l'odeur du safran et du miel, et forte celle du thym et des plantes de ce genre. On en peut dire autant pour le reste des odeurs. Paragraphe 4. Il en est des autres sens comme de l'ouïe. Elle est relative à ce qui s'entend et à ce qui ne s'entend pas. Un autre sens est relatif à ce qui est visible et à ce qui est invisible. De même, l'odorat est relatif à ce qui est odorant et à ce qui ne l'est pas. On dit d'un corps qu'il est inodore, tantôt quand il n'a pas du tout d'odeur, tantôt quand il en a peu ou qu'il a une très faible odeur, et l'on dit au même titre qu'un corps est sans goût. Paragraphe 5. L'olfaction se fait aussi par un milieu tel que l'air et l'eau, car les animaux aquatiques paraissent avoir également le sens de l'odorat. Les animaux qui ont du sang et ceux qui n'en ont pas possèdent ce sens aussi bien que ceux qui vivent dans l'air, car il y en a beaucoup qui sont attirés de fort loin vers leur proie par l'odeur qu'ils ont reçue. Paragraphe 6. Et c'est là précisément ce qui fait la difficulté de savoir pourquoi, si tous les animaux odorent de la même façon, l'homme odore en aspirant et cesse d'odorer lorsqu'au lieu d'aspirer il expire ou retient son souffle. Alors il ne peut plus percevoir l'odeur, ni de loin ni de près, non plus que lorsqu'il pose l'objet en dedans du nez, sur la narine même. Un phénomène commun à tous les animaux, c'est que l'objet placé directement sur l'organe cesse tout à fait d'être senti. Mais ne pouvoir pas sentir l'odeur sans aspirer, c'est là une particularité propre à l'espèce humaine, et l'on peut s'en convaincre par l'expérience. Les animaux privés de sang pourraient donc avoir, parce qu'ils n'aspirent pas, un autre sens en sus de tous ceux qu'on connaît. Mais il est impossible qu'ils en aient un autre, puisqu'ils sentent aussi l'odeur. En effet, la sensation de l'odeur, d'une chose qui a un parfum, soit agréable, soit désagréable, est une olfaction. Et l'on voit les animaux de ce genre tués par les odeurs très fortes qui tuent aussi l'homme, comme l'asphalte, le soufre et autres corps analogues. Il faut donc conclure nécessairement que ces animaux odorent, bien qu'ils ne respirent pas. Paragraphe 7. Du reste, cet organe paraît différer chez l'homme comparativement au reste des animaux, à peu près comme ses yeux diffèrent de ceux des animaux qui ont les yeux durs. Les yeux de l'homme, en effet, ont une sorte de rempart et de fourreau, je veux dire les paupières. Et, à moins qu'il ne meuve les paupières et ne les ouvre, il ne voit point. Les animaux qui ont les yeux durs n'ont rien de pareil, mais ils voient directement les objets qui sont placés dans le diaphane. Tout de même, l'appareil olfactif est chez les uns sans ouverture aussi bien que l'œil. Au contraire, chez les autres qui reçoivent l'air, il a un tégument, et ce tégument se découvre quand il respire, les veines et les pores venant alors à s'ouvrir. Paragraphe 8. Et voilà pourquoi les animaux qui respirent n'odorent pas dans l'eau. C'est que pour odorer, ils doivent nécessairement aspirer, et que dans l'eau, il leur est impossible de le faire. D'ailleurs, l'odorat s'applique au sec, tout comme le goût s'applique à l'humide. Et, en puissance, l'organe olfactif est analogue à l'objet auquel il s'applique. Chapitre 9. Sommaire. Théorie du goût. Rapport du goût au toucher et à la vue. L'humidité est toujours nécessaire pour que la sensation du goût ait lieu. Mais il faut qu'elle soit dans une certaine mesure. Espèces diverses de saveurs. Paragraphe 1. L'objet sapide est en quelque sorte un objet touché. Et voilà ce qui fait que la chose perceptible au goût n'a pas besoin pour être sentie de l'intermédiaire d'un corps étranger. C'est que le toucher n'en a pas besoin non plus. Le corps dans lequel est la saveur est l'objet perceptible au goût. C'est l'humide qui est sa matière, et l'humide est quelque chose de tangible. Aussi, nous serions dans l'eau et nous y sentirions fort bien quelque chose de doux qui y serait jeté, que la sensation pour nous ne se produirait pas par un intermédiaire, mais elle aurait lieu par cela seul que le doux serait mêlé au liquide, comme il arrive pour ce qu'on boit. La couleur, au contraire, n'a pas besoin pour être visible de se mêler à quelque chose, et elle ne l'est pas non plus par des émanations. Paragraphe 2. De même donc qu'ici l'intermédiaire n'est rien et que le visible est la couleur, de même la saveur est ce qui est perceptible au goût. Aucun objet ne peut donner la sensation de la saveur sans humidité. Mais il y a toujours, soit en acte, soit en puissance, de l'humidité, comme pour le sel qui fond si facilement, et par le seul contact de la langue. Paragraphe 3. Mais on peut remarquer que la vue s'applique et au visible et à l'invisible, car les ténèbres sont invisibles. Et pourtant, c'est la vue qui les distingue. La vue s'applique de plus à ce qui est excessivement éclatant, ce qui est tout aussi invisible que les ténèbres, bien que d'une autre façon. On peut remarquer encore que l'ouïe s'applique au son et au silence, dont l'un est perceptible à l'ouïe et l'autre ne l'est pas, et qu'elle s'applique en outre au bruit excessif, comme la vue à ce qui est excessivement éclatant. Car si un petit bruit est, dans un certain sens, imperceptible à l'ouïe, un bruit extrême, un bruit violent ne l'est pas moins. D'autre part, invisible se dit d'une manière absolue, comme pour tant d'autres choses, on emploie le mot impossible. Mais il se dit aussi, quand l'objet n'a pas les qualités qu'il devrait avoir, ou ne les a qu'incomplètement, comme d'un animal on dit qu'il est sans pied, ou d'une terre qu'elle est sans olive. Le goût est tout à fait dans le même cas que la vue et l'ouïe, et il s'applique à ce qui est sapide et à ce qui est insipide. L'insipide est ce qui a peu de saveur, ou a une saveur mauvaise, ou peut faire mal au goût. Le potable et l'impotable paraissent être ici le principe, et tous les deux ont une espèce de saveur. Mais l'un est mauvais et fait mal au goût, l'autre au contraire est suivant la nature. Paragraphe 4. Le potable est commun à la fois au goût et au toucher, et comme ce qui est sapide est humide, il y a aussi nécessité à la fois que l'organe qui en a la sensation ne soit point humide réellement, en entéléchie, et qu'il ne soit point impuissant à le devenir. C'est que le goût est affecté par l'objet sapide en tant que sapide, car il faut nécessairement que l'organe s'humecte et qu'il puisse s'humecter tout en restant ce qu'il est, et qu'il ne soit pas humide par lui-même. Ce qui le montre bien, c'est que la langue ne sent rien, ni quand elle est trop sèche, ni quand elle est trop humide, car elle ne sent alors que le premier humide qui l'a affecté. Comme lorsqu'après avoir senti une très forte saveur, on en goûte une différente. Ou bien encore, tels sont les malades auxquels tout paraît amer, parce que la langue avec laquelle ils goûtent est pleine d'une humidité qui a cette amertume. Paragraphe 5. Les espèces des saveurs, de même que celles des couleurs, sont simples quand elles sont contraires. Ainsi, le doux et l'amer, et les saveurs qui viennent à la suite. Le fade pour l'un et l'âpre pour l'autre. Et, outre ces extrêmes, le fort et le pur, l'aigre et l'acide. Telles sont, en effet, à peu près toutes les différences des saveurs. En résumé, le goût est la faculté qui peut être ainsi affectée, et l'objet sapide est ce qui est en toute réalité, en entéléchie, l'affect de cette façon. Chapitre 11. Sommaire. Théorie du toucher. Difficulté spéciale de cette étude. Le toucher est-il plusieurs sens, ou un sens unique? Ses rapports avec les autres sens, c'est un sens unique. La perception se fait pour le toucher absolument comme pour les autres sens, par un intermédiaire. L'intermédiaire entre le toucher et les objets tangibles, c'est la chair. Différence spéciale à cet ordre de perception. Qualité moyenne dont est douée la chair pour pouvoir remplir ses fonctions. Paragraphe 1. L'objet tangible et le toucher pourront être expliqués l'un et l'autre par les mêmes raisonnements. En effet, si le toucher est non pas un sens unique mais plusieurs sens, il faut aussi que les objets perceptibles au toucher soient de plusieurs sortes. Mais il y a des doutes pour savoir si le toucher est plusieurs sens ou s'il est un sens unique et quel est précisément l'organe qui touche l'objet tangible et si c'est ou non la chair et les parties correspondantes dans les animaux qui n'ont pas de chair. Mais la chair n'est qu'un intermédiaire. Et l'organe essentiel est quelque chose de tout différent qui est à l'intérieur. Paragraphe 2. Tout sens ne paraît compter qu'une seule opposition par les contraires. Ainsi, la vue a le blanc et le noir. L'ouïe a le grave et l'aigu. Le goût a l'amer et le doux. Mais dans le toucher, il y a plusieurs de ces oppositions. Chaud et froid, sec et humide, dur et mou, et bien d'autres du même genre. On peut, il est vrai, donner une certaine solution de cette difficulté en disant que pour les autres sens aussi, il y a plusieurs oppositions, comme dans la voix. Il y a non seulement le grave et l'aigu, mais encore le fort et le faible, le rude et le doux, et tant d'autres nuances que présente la voix. On peut dire également qu'il y a des différences analogues pour la couleur. Mais on ne sait pas clairement quel est ici le sujet unique du toucher, comme on sait que c'est le son pour l'ouïe. Paragraphe 3. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas un organe intérieur? Ou bien est-ce la chair qui perçoit directement? Il ne paraît pas que l'on puisse tirer aucune indication de ce que la sensation ne se produit qu'au moment où l'on touche les objets. Car dans l'état actuel des organes, on peut étendre sur la chair quelque chose qui fasse une sorte de membrane. Et l'on n'en a pas moins la sensation tout aussi distincte que si l'on touchait directement. Cependant, il est évident que l'organe de la sensation n'est pas dans cette membrane. Et encore, si elle était de même nature que la peau, la sensation la traverserait bien plus vite. Paragraphe 4. Aussi, cette partie du corps semble-t-elle être disposée comme le serait l'air s'il faisait naturellement autour de nous une enveloppe circulaire. Ce serait alors par un seul et même sens que nous paraîtrions percevoir et le son et la couleur et l'odeur. Et nous croirions que la vue, l'ouïe et l'odorat ne sont qu'un sens unique. Mais maintenant, comme le milieu par lequel se produisent ces mouvements est fort distinct, les organes de sensation dont nous venons de parler nous apparaissent évidemment comme différents aussi. Pour le toucher, au contraire, cela reste encore obscur. En effet, il est impossible qu'un corps animé se compose d'air ou d'eau, et il faut toujours qu'il y ait quelques parties solides. Reste donc qu'il soit un mélange de terre et d'autres éléments analogues, comme semblent être la chair et les parties qui la suppléent. Ainsi, la nature a fait pour cet usage le corps, qui est, entre ce qui touche et les objets touchés, l'intermédiaire indispensable, où se produisent plusieurs sens. Paragraphe 5. Cette multiplicité de sens est bien manifeste dans le toucher de la langue. Une même partie y sent à la fois et toutes les choses purement tangibles et la saveur. si les autres portions de la chair pouvaient avoir perception des saveurs, le goût et le toucher paraîtraient être un seul et même sens. Mais maintenant, ce sont bien deux sens, parce qu'ils ne peuvent pas être pris réciproquement l'un pour l'autre. Paragraphe 6. On peut aussi se poser cette question. Puisque tout corps a de la profondeur, c'est-à-dire la troisième dimension, deux corps, qui ont entre eux quelques corps intermédiaires, ne peuvent se toucher mutuellement. Or, l'humide n'est pas certainement sans corps non plus que le fluide, car il faut nécessairement de l'eau pour l'un, comme il faut aussi que l'autre ait de l'eau. Ainsi, les corps qui se touchent mutuellement dans l'eau doivent, puisque leurs extrémités ne sont pas sèches, avoir nécessairement entre eux de l'eau dont leurs bords sont couverts. Et si cela est vrai, il est impossible que dans l'eau, un corps en touche jamais un autre. Il en est absolument de même pour l'air, car l'air est à l'égard des corps qui y sont plongés, comme l'eau est à l'égard de ceux qu'elle enveloppe. Mais nous nous apercevons encore bien moins que le fluide touche le fluide, comme l'ignorent aussi les animaux qui vivent dans l'eau. Paragraphe 7. On voit donc qu'on peut se demander s'il n'y a qu'un seul mode de sensation pareil pour tous les sens, ou s'il y a divers modes pour les sens divers. Ainsi, le goût et le toucher paraissent maintenant avoir besoin du contact, tandis que les autres s'exercent à distance. Mais cette différence n'existe pas, car nous sentons le dur et le doux par des intermédiaires, tout comme nous sentons de cette manière le sonore, le visible et l'odorant. Et de ces sensations, les secondes sont perçues de loin, les autres le sont de près. On peut remarquer que nous ne savons pas que nous les percevons toutes par un milieu. Et nous sommes encore dans la même ignorance pour le goût et le toucher. Mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, si nous sentions toutes les choses perceptibles au toucher à travers une membrane, sans savoir qu'elle nous isole en nous entourant, nous serions comme nous sommes maintenant, quand nous nous plongeons dans l'eau et aussi en restant dans l'air. Il nous semble toucher directement les choses mêmes, et nous serions tentés de dire qu'il n'y a point d'intermédiaire. Paragraphe 8. Mais l'objet du toucher diffère des objets visibles et sonores en ce que nous sentons ceux-ci, parce que l'intermédiaire agit sur nous d'une certaine façon, tandis que nous sentons les choses du toucher non pas par l'intermédiaire, mais avec cet intermédiaire. Tel serait un homme frappé au travers de son bouclier. Ce n'est pas le bouclier qui, frappé, a porté le coup. Mais l'homme et le bouclier ont été tous les deux frappés à la fois. Paragraphe 9. D'une manière générale, ce que l'air et l'eau sont pour la vue, pour l'ouïe et pour l'odorat, la chair et la langue semblent l'être pour le toucher. Elles se comportent envers lui comme chacun de ces éléments se comporte envers les autres organes. Pour le toucher, pas plus que pour les autres sens, il n'y a point de sensation quand l'objet touche directement l'organe. De même qu'il cesserait d'y en avoir si l'on venait à placer un corps, un objet blanc par exemple, sur la surface de l'œil. Il est évident que c'est aussi de cette façon qu'est placé à l'intérieur l'organe qui sent l'objet tangible. Dès lors, tout se passe absolument comme pour les autres sens. Si les choses tangibles étaient placées sur l'organe même, on ne les percevrait pas, mais on les sent parce qu'elles sont posées sur la chair. On en peut conclure que c'est la chair qui est l'intermédiaire pour l'organe qui touche. Paragraphe 10. Les différences des corps en tant que corps sont tangibles. Je veux dire, les différences qui distinguent les éléments chauds, froids, secs, humides. Et nous en avons parlé antérieurement dans nos études sur les éléments. Paragraphe 11. L'organe qui perçoit ces différences, c'est l'organe qui touche. Et la partie où primitivement se trouve le sens qu'on nomme le toucher est en puissance, ce que les tangibles sont en acte. Car sentir, c'est éprouver quelque affection. Ce qui fait une chose pareille à soi en acte ne le fait que parce que la chose est déjà telle en puissance. Voilà pourquoi nous ne sentons pas ce qui est chaud ou froid, dur ou mou, au même degré que nous. Nous ne sentons que les différences, comme si la sensibilité était une sorte de moyenne entre les qualités contraires des choses sensibles, et que ce fut là ce qui fait que la sensation peut juger les choses sensibles. En effet, c'est surtout le moyen terme qui est propre à juger, parce que, relativement à chacun des extrêmes, il est à la fois l'un et l'autre. Et de même que ce qui doit percevoir le blanc et le noir ne doit être en acte ni celui-ci ni celui-là, mais qu'il doit être tous les deux en puissance, de même aussi pour les autres sens, et pareillement pour le toucher, qui ne doit être ni chaud ni froid. Paragraphe 12. En outre, ainsi que la vue s'appliquait au visible et à l'invisible, et que les autres sens s'appliquaient également à leurs opposés, de même encore, le toucher est relatif aux choses tangibles et aux choses non tangibles. On appelle non tangible, et la chose qui ne présente qu'une très petite différence suffisante pour la faire ranger encore parmi les choses tangibles, l'air par exemple, et aussi les choses qui touchent l'organe avec une telle violence qu'elles détruisent la sensation. Nous avons donc tracé une esquisse de chacun des sens en particulier. Chapitre 12. Sommaire. Généralité commune à tous les sens. Ils reçoivent tous les formes des objets sensibles sans la matière de ces objets. Rapport nécessaire entre les sens et chacun de leurs objets propres. Cause de l'insensibilité des plantes. Il n'y a pas de sensation sans organe spécial. Paragraphe 1. Il faut admettre, pour tous les sens en général, que le sens est ce qui reçoit les formes sensibles sans la matière, comme la cire reçoit l'empreinte de l'anneau sans le fer ou l'or dont l'anneau est composé, et garde cette empreinte d'airain ou d'or, mais non pas en tant qu'or ou airain. De même, la sensibilité est spécialement affectée pour chaque objet qui a couleur, saveur ou son, non pas que chacun de ces objets est dénommé, mais selon qu'il est de telle nature et suivant la seule raison. Paragraphe 2. Elle est l'organe primitif dans lequel est cette puissance. Elle est donc identique à l'objet senti, bien que son être soit différent. Car autrement, ce qui sent serait aussi une sorte de grandeur. Mais pourtant l'essence de ce qui sent, non plus que la sensation même, n'est pas une grandeur. C'est un certain rapport et une certaine puissance à l'égard de l'objet senti. Paragraphe 3. Et cela même nous fait voir clairement pourquoi les qualités excessives dans les choses sensibles détruisent les organes de la sensation. Si le mouvement est plus fort que l'organe, le rapport est détruit. Et ce rapport était pour nous la sensation. Tout de même que l'harmonie et l'accord sont détruits quand les cordes sont trop fortement touchées. Paragraphe 4. Mais pourquoi les plantes ne sentent-elles pas, bien qu'elles aient une portion d'âme et qu'elles soient affectées par les choses du toucher, et que par exemple elles se refroidissent et s'échauffent? La cause en est qu'elles n'ont ni cette qualité moyenne, ni un principe capable de recevoir les formes des choses sensibles, mais qu'elles sont affectées avec la matière. Paragraphe 5. On pourrait encore demander si l'odeur fait éprouver quelque chose à ce qui ne peut odorer, ou la couleur à ce qui ne peut voir. La question s'applique aux autres sens. Si la chose que l'on odore est l'odeur, l'odeur, quand elle produit quelque sensation, ne produit que l'odoration. Et ainsi, rien de ce qui ne peut pas odorer ne saurait être affecté par l'odeur. On ferait, pour les autres sens, une réponse toute pareille. Bien plus, ce qui peut sentir ne sent jamais que de la façon qu'il est sensible. Voici qui le prouve bien encore. C'est que ni la lumière, ni l'obscurité, ni le son, ni l'odeur ne changent en rien les corps. Ce qui les change, ce sont les choses seulement dans lesquelles sont ces qualités. Ainsi, c'est l'air dont est accompagné le tonnerre qui fend le bois. Paragraphe 6. Mais les qualités tangibles et les saveurs agissent sur les corps insensibles. Autrement, par quelle cause les causes inanimées seraient-elles affectées et altérées? Est-ce que les autres qualités agiront aussi sur les corps? Ou plutôt, n'est-il pas vrai que tout corps n'est pas affectible par l'odeur et par le son? Mais les corps qui sont affectés ainsi sont indéterminés et mobiles. Tel est l'air qui peut contracter une odeur, comme s'il avait éprouvé quelque affection. Qu'est-ce donc que sentir une odeur, si ce n'est éprouver une certaine affection? Sentir une odeur, c'est percevoir une sensation. Mais l'air, quand il subit une modification, ne fait que nous la rendre aussitôt perceptible. Fin du livre deuxième.